créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, dans la nature, il y a des espèces de miracles qui se font. Hein? Par exemple, vous prenez une chenille, là, vous la voyez qui se tortille dans l'herbe, et puis quand arrive l'automne, la chenille, elle s'entortille dans sa chrysalide, et elle reste là pendant des semaines et des mois. Et puis, au printemps, le cocon va craquer, et qu'est-ce qui va sortir de là? Une chenille? Non, un magnifique papillon. Voilà. Hein? C'est l'image de la nouvelle naissance, voyez, de cette transformation de vie que Dieu opère en nous. De la même manière qu'une chenille peut devenir un papillon, un délinquant peut devenir un honnête homme. Gloire à Dieu. Alors, pas besoin d'être délinquant pour avoir à se convertir, n'est-ce pas? Parce que, comme l'a dit fort bien, il y a bien un croyant des siècles passés, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Voilà, ça n'est pas un héritage culturel, une tradition religieuse familiale, c'est une expérience de vie qui se produit lorsque, à l'écoute de la parole du Seigneur, eh bien, nous comprenons que nous avons besoin de lui. Je voudrais lire avec vous un seul verset qui se trouve dans le livre des Proverbes, qui lui-même, livre des Proverbes, se trouve dans la Bible. Et au chapitre 23 et au verset 26, il est dit ceci, chapitre 23, verset 26, nous ne lirons d'ailleurs que la moitié du verset. Mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Et si c'est une dame ou une jeune fille, c'est pareil. Ma fille, donne-moi ton cœur. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors qu'est-ce que c'est que le cœur? Le cœur, c'est cette pompe-là que nous avons dans notre poitrine et qui, à chaque battement, eh bien, propulse dans toutes les parties de notre corps, n'est-ce pas, le flux sanguin qui nous permet de vivre. Mais dans la Bible, le cœur représente aussi ce qu'il y a de plus intime, de plus intérieur, de plus personnel, de plus secret. C'est là, dans notre cœur, que s'élaborent nos sentiments, que se construisent nos émotions, nos pensées, notre volonté, nos envies, nos désirs, nos ambitions, nos motivations. Tout ce que tu es, et tout ce que je suis, au-delà des apparences, est contenu dans notre cœur. Dans notre cœur. Alors, l'homme, l'être humain, vous, moi, ne voit que l'extérieur, l'enveloppe. Et généralement, nous prenons soin de présenter de notre personne l'extérieur le plus avantageux. Vous êtes tous magnifiques cet après-midi, d'ailleurs. Mais Dieu va bien au-delà des apparences. Dieu va bien au-delà. Et la Bible dit ceci, c'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et il sait donc parfaitement, permettez que j'emploie le tutoiement, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ta vie. Comment est ton cœur ? Cet après-midi, ce soir, quel est l'état de ton cœur? Aujourd'hui, dans notre monde, et il a toujours été ainsi, il y a bien des cœurs brisés. Bien des cœurs brisés. C'est vrai, on peut toujours donner le change. On peut toujours faire semblant. Comment ça va? Oh, super! Mais là, à l'intérieur de notre cœur, eh bien, on est malheureux. Un cœur brisé par le chagrin, par le désespoir, par l'échec, par le rejet, par le mépris, par le manque d'amour, le manque d'amour. On a tous besoin d'être aimé, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui n'ont pas été aimés, ou mal aimés, ou peu aimés, ou plus aimés, après avoir été. Brisé par la solitude. Et l'Écriture dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et vous savez ce qu'il y a de particulier, c'est que on peut être seul, même à l'intérieur d'une famille. C'est vrai, chacun le matin part à son ouvrage, les jeunes ou les enfants, peut-être à l'école ou à l'université, le père d'un côté, la mère de l'autre, puis le soir on se retrouve. Normalement, eh bien, ça devrait être un temps de rencontre, de partage. Mais voilà, il y a la télé, il y a Internet, il y a bien des choses. Ce qui fait que chacun vit dans sa bulle. Et il y a des gens qui, tout en vivant au sein d'une famille, sont désespérément seuls. Peut-être qu'au milieu de nous, cet après-midi, il y a quelqu'un qui souffre de la solitude. Cœur brisé, on peut l'avoir, Yvan nous en a un petit peu rendu compte, à cause des drames qui se sont produits, des tragédies qu'on a vécues, et les souvenirs du passé, vous le savez très bien, remontent toujours à la surface. Et puis il y a des cœurs brisés aussi par les abus de toutes sortes qu'ils ont subis, qu'ils ont été infligés. Et il y a des gens qui ont un cœur tellement brisé, en miettes, si je puis dire, qu'ils en finissent par penser au suicide. Et pas seulement y penser, mais passer à l'acte parfois. Et peut-être, je ne sais pas, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est travaillé par cette idée morbide, en finir avec la vie, tout ira mieux après. Non, mes amis, ça n'est pas vrai, parce que l'Écriture dit qu'après la mort vient le jugement. Et si vous partiez dans l'éternité précipitamment, sans auparavant avoir fait la paix avec Dieu, si vous vous octroyiez le droit de porter atteinte à vos jours, vous auriez un jour à en rendre compte devant Dieu, et ce serait tragique. Mais il y a une bonne nouvelle. Alléluia. On a dit que l'Évangile, c'était une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Jésus a dit, je suis venu guérir les cœurs brisés. Voilà, je suis venu guérir les cœurs brisés. Alors c'est vrai, il y a le travail des psychiatres, des psychologues et de tous les autres psys. Mais au-delà de ce que peuvent réaliser des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, c'est pas toujours mauvais, il y a ce que Dieu fait. Et c'est supérieur, parce qu'il est le Tout-Puissant. L'Écriture nous parle d'une femme qui avait, à juste titre, et on le comprend, son cœur brisé. L'Écriture dit qu'elle était veuve, donc déjà, voyez, eh bien, la mort était passée par là et lui avait ravi son mari. Et puis la Bible dit que quand Jésus l'a rencontrée, elle portait en terre son fils, qui plus est son fils unique. Alors, un coup de plus, le sort s'acharnait sur cette pauvre femme. Et bien sûr, elle marchait tristement derrière le cercueil de son cher enfant. Et elle était dans les larmes. Et Jésus s'approche, il arrête le convoi funèbre. Et il dit à cette femme, ne pleure pas. Comment dire à une femme, à une mère, qui vient de perdre son enfant, ne pleure pas. Mais Jésus a la capacité d'accomplir ce qu'il dit, vous voyez. Voilà, l'Écriture dit que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et Jésus a fait ce qu'il fallait faire pour consoler le cœur brisé de cette femme, et il a ressuscité son fils, béni soit Dieu. Un miracle. Peut-être que vous êtes un petit peu semblable à cette femme, dans le sens que vous avez enterré vos espoirs. Quand on est jeune, on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de rêves aussi, c'est pas vrai ? Hein, ceux qui sont un petit peu avancés en âge. Hein. On pense toujours, quand on est jeune, qu'on va réussir là où les autres ont échoué. C'est pas vrai, ça ? Bien sûr que c'est vrai. Et puis, la vie se passe, on s'aperçoit que les choses ne sont pas comme nous l'avions supposé, comme nous l'avions espéré. Alors, on a toutes sortes de cercueils dans notre vie, dans lesquels on a enterré notre espoir, notre espérance, notre joie de vivre. Et si vous en êtes là cet après-midi, chers amis, je voudrais vous dire que Jésus est capable de ressusciter l'espoir. Il veut dans votre existence vous accorder une autre chance, un nouveau départ. Il y a en lui un avenir. Il est capable de restaurer, de guérir, de reconstruire, de consoler, de rassurer. En un mot, de guérir votre cœur brisé, si tel est votre besoin. Et puis, puisque nous parlons du cœur, la parole de Dieu, la Bible, donne ce verdict, ce diagnostic à propos du cœur de l'homme, le vôtre, le mien, en disant qu'il est mauvais. Vous savez, l'humanisme séculier nous dit que tout va bien, tout ira mieux dans le meilleur des mondes parce qu'il faut avoir confiance dans la nature humaine. Mais quand on regarde ce qu'a produit la nature humaine aujourd'hui et ce qu'elle produit encore aujourd'hui, c'est pas brillant. La Bible dit ceci, c'est que le cœur, il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Non, 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 c'est pas vrai. L'homme n'est pas bon de manière naturelle. Je sais que notre philosophe Jean-Jacques Rousseau a dit que l'homme était bon, mais que c'était la société qui l'avait corrompu. Mais dites-moi, qu'est-ce que la société, sinon l'addition des divers individus qui la composent? Et si la société est mauvaise, et c'est vrai qu'elle l'est, c'est parce que chacun de ceux qui la composent, vous et moi, nous sommes par nature mauvais. Notre cœur est mauvais parce qu'il est atteint d'un mal incurable que la Bible appelle le péché. Oh, je sais, c'est un mot que beaucoup voudraient bannir du vocabulaire. Ça fait vieux jeu, suranné, ça fait, eh bien, bigot. Mais le péché, c'est une réalité. Qu'est-ce que c'est que le péché? Tout ce qui déplaît à Dieu, ce qui est mauvais, ce qui est méchant, ce qui est sale, ce qui est coupable, ce qui est laid, c'est le mal, quoi. David, le roi David, vous savez, en a pris conscience de ce mal qui était en lui, réalisant que à quel point il pouvait être lui aussi, tout roi qu'il était, pervers. Et il fera monter vers Dieu cette prière: ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est dans des circonstances particulières qu'il a prononcé cette prière, après sa terrible faute. Voyez, la parole de Dieu, la Bible n'est pas un conte de fées. Elle nous présente les choses telles qu'elles sont. Elle nous montre les hommes, même les plus grands, dans ce qu'ils ont parfois de plus misérable. Et l'Écriture nous dit à propos du roi David qu'un certain soir, alors qu'il souffrait d'insomnie, il s'est levé de son lit et il s'est promené sur la terrasse de son palais royal, et de là il a aperçu une femme qui se baignait, qui était fort belle. Et tout d'un coup, eh bien, son esprit a chaviré, il a été saisi de convoitise, il a désiré cette femme, il l'a fait venir et il a couché avec elle. Elle s'est retrouvée enceinte. Le fait est qu'elle était mariée. Alors, David s'est affolé, et dans son affolement, il a ordonné, c'était le roi, vous pensez? Et à l'époque, les rois étaient tout puissants dans le royaume. Et il a ordonné que, eh bien, on exécute le mari de cette femme. Je vous disais que la Bible n'est pas un conte de fées. Elle nous raconte les choses comme elles sont. Elle nous présente l'être humain dans ce qu'il a le plus misérable. Mais voici que les choses n'en sont pas restées là. Un prophète, un homme de Dieu, est venu dénoncer le péché du roi. Et David, en écoutant l'injonction du prophète, a réalisé que son cœur était souillé, mais oui, dégradé, avili, pollué par le mal. Alors même si nous ne sommes ni des adultères, ni des meurtriers, nous sommes des pécheurs. L'Écriture dit que tous ont péché. On ne peut pas se réfugier derrière ce slogan en disant « Oh, moi, monsieur, je n'ai jamais fait de mal à personne. » Non, 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 laissez parler votre conscience. Nous avons abordé ce sujet ce matin pour ceux qui étaient là. Et si vous laissez parler votre conscience, vous verrez que bien des fois, elle vous reprendra et elle vous dira dans telle ou telle occasion, « Eh bien, tu n'as pas été à la hauteur. Dans telle ou telle occasion, tu t'es fourvoyé. Toi, tu as fait le mal. » Pas besoin que les autres nous accusent, notre propre conscience est capable de le faire et de nous avertir de notre misère intérieure. Oui, notre cœur est pollué par le péché. On parle beaucoup de pollution aujourd'hui. Pollution atmosphérique, pollution de l'eau, pollution de l'air. Et c'est vrai, on en parle à juste titre. Mais vous savez, la pire de toutes les pollutions, c'est une pollution morale. L'être humain est pollué par le péché. Et cette contamination est généralisée. Mais David, je reviens à sa prière, prie en disant « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Ce cœur qui est souillé, ce cœur qui est mauvais, ce cœur qui est coupable, ce cœur pécheur, purifie-le, Seigneur. Qu'est-ce que c'est qui peut purifier notre cœur? Le nettoyer du mal qu'il contient, du péché que nous avons commis. Une seule chose, non pas l'éducation, pas même la religion. Non, l'Écriture dit quelque part, là, la Bible, que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette parole? C'est un petit peu énigmatique, ça. Le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Ça veut dire, mes amis, que pour que vous et moi, nous recevions le pardon dont nous avons besoin, quelque chose s'est passé, souvenez-vous, il y a 2000 ans. Le Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre des hommes. Il est né, miraculeusement, du sein de la Vierge Marie. Il a grandi, là-bas, en Israël. Et puis, alors qu'il avait un petit peu plus de 30 ans, eh bien, il a été arrêté par les autorités religieuses. On le considérait comme un imposteur, comme un gêneur, livré à l'autorité romaine, et il fut crucifié. Alors on pourrait dire Jésus est mort à cause des Juifs. On les a persécutés d'ailleurs pour cela. Jésus est mort à cause des Romains. Ça n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit Christ est mort pour nos péchés, afin que nous recevions, vous et moi, le pardon dont nous avons besoin de la part de Dieu. Le Christ qui était lui sans péché a donné sa vie sur la croix. Comment vous faire comprendre cela? Oh, il a payé pour que nous n'ayons pas à payer. Il a accepté de subir à notre place la juste condamnation que nous méritions devant Dieu. Car la justice divine exige que le péché soit puni, que le péché soit sanctionné. Le prédicateur cite souvent à juste titre ce verset qui dit que le salaire du péché c'est la mort. Non pas seulement la mort dans sa signification physique, mais la mort éternelle. L'éternelle séparation d'avec Dieu. C'est cela que je mérite, c'est cela que vous méritez. Mais Christ, pour nous épargner ce sort tragique, a pris à son compte la culpabilité de nos péchés. Est-il possible qu'il ait fait cela? Oui. Lui, dans la Bible, nous dit qu'il était sans péché. Il s'est chargé de nos péchés. Et là, sur la croix, il reçoit en son corps le châtiment que nous méritions. Il meurt pour nous. Et au moment où je le crois, je reçois le pardon. Mon cœur est purifié. C'est pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus, le sang, vous savez, ce symbole de la vie innocente, offerte en sacrifice, ce sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dieu offre le pardon. Et quand Dieu pardonne, il le fait bien. N'est-ce pas que nous avons du mal, nous, à pardonner? C'est pas vrai? Beaucoup disent, je pardonne, mais ils ajoutent, allez, dites la suite, vous la connaissez. Eh bien, Dieu dit l'inverse. Il dit, je pardonne et je ne me souviendrai plus de tes péchés ni de tes iniquités. Voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu devient amnésique? Pas du tout, non. Ça veut dire que lorsque Dieu pardonne, Dieu ne nous reprochera plus jamais notre passé. Alléluia! Le passé de délinquant de notre ami Yvan s'est terminé. Dieu ne reviendra plus jamais sur la question. Il a fait grâce. Le trait est tiré, la purification est opérée, n'est-ce pas? Qui que nous soyons, nous pouvons nous approcher de Dieu en lui disant, Seigneur, je reconnais ce que je suis. Je reconnais ce que j'ai été jusque-là, un pécheur, moi aussi. J'ai transgressé ta parole, j'ai désobéi à tes commandements. Oh, j'ai peut-être pas tué, j'ai peut-être pas fait de braquage dans une banque, mais il y a tant d'autres choses qui me disent, si je veux bien le reconnaître honnêtement, que moi aussi je suis un pécheur. Mais je te prie de me faire grâce et de tout effacer. Il le fait. Et puis les choses ne s'arrêtent pas là. Parce que David dit ceci, écoutez la prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Non seulement notre cœur a besoin d'être purifié, mais il a besoin d'être recréé. Recréé. Dans un passage de la Bible que j'aimerais lire pour vous, ne le cherchez pas, voici ce que le Seigneur déclare. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nous vivons une époque remarquable. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un a un sérieux problème cardiaque, il peut bénéficier d'une transplantation cardiaque. Et ça marche. C'est extraordinaire, ça. Hein? On vous ouvre la poitrine, et ce vieux cœur qui battait la breloque, on vous le change par un cœur tout neuf, qu'on a été chercher quand même sur un donneur. Et ça repart pour un coup. Hein? Eh bien, ce qui se fait dans le domaine naturel par les procédés médicaux et chirurgicaux, Dieu le fait aussi dans le domaine spirituel. Il opère ce que nous pourrions appeler une espèce de transplantation cardiaque, voyez. Dieu peut changer notre cœur. Ça veut dire que non seulement il pardonne le mal que notre cœur contient, mais il enlève le mal. Alléluia. Il met à la place ce qui est pur, ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est digne, ce qui est propre. Ça veut dire que, par exemple, la haine va être changée en amour. Vous ne croyez pas que c'est un miracle, ça? D'apprendre à aimer ceux que l'on n'aimait pas auparavant. Il va changer la violence en douceur, la colère en patience. Oui, mes amis, il nous transforme. Je vous dis que la psychologie ne peut pas faire ça. Non, 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 la religion non plus. L'éducation, pas davantage. Je me souviens de ce temps où j'étais à l'école primaire et j'aimais bien ça. Tous les matins, ça commençait par un cours de morale. C'est pas mauvais en soi. Et nous avions droit tous les matins à une petite histoire que l'instituteur nous racontait et puis qui illustrait tel ou tel aspect de la morale. Il fallait être poli, il fallait être gentil, il fallait être courtois, etc., etc. Mais c'était très bien de nous dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, mais personne ne nous a donné le secret, ni l'instituteur, ni qui que ce soit, pour nous expliquer comment y parvenir. Le comment, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Et plusieurs parmi nous, eh bien, peuvent dire, oui, ça s'est passé, ça s'est produit dans ma vie. Il y a eu une transformation radicale. Le Seigneur a changé ma vie. Il m'a libéré. Certains ont été libérés de passions, d'addiction, de mauvaises habitudes, dont ils étaient littéralement esclaves. Vous savez, aujourd'hui, la liberté, c'est un slogan que l'on nous claironne sur tous les tons. Les gens ne sont pas libres du tout. Vous croyez que quelqu'un qui est dépendant de l'alcool, de la drogue ou simplement du tabac, tenez, est-il réellement libre? Pas du tout. Il est dominé, asservi par sa mauvaise habitude. Mais ceux-là qui se confient dans le Seigneur peuvent être libérés. Tenez, je vois au fond de la salle un monsieur africain qui me disait il y a quelque temps qu'il est venu un de ces jours, il n'y a pas si longtemps que ça, pour qu'on prie pour lui. Le prédicateur ne savait pas quel était son problème, mais Dieu le sait. Et Dieu l'a délivré du tabac. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia, gloire à Dieu. Dieu fait cela encore aujourd'hui, vous voyez. Ce n'est pas une pastille, c'est pas interdit, hein, la pastille. C'est pas, je sais pas moi, des cours de sophrologie ou autre chose, c'est la puissance de Dieu qui fait cela. Et ça ne prend pas une longue période d'initiation. Lorsque Dieu agit, il est capable d'agir instantanément. Et notre vie en est toute bouleversée, toute transformée. C'est ce que Dieu veut faire ce soir pour vous. Vous pardonner et vous rendre réellement libre. Je dis réellement, non pas en avoir l'illusion, l'impression, mais la réalité. Comment est-ce possible? On en revient au texte que nous avons lu en préambule. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu ne veut pas votre argent. Dieu ne veut pas votre prière, si tant est que votre prière soit une récitation apprise par cœur. Dieu ne veut pas que vous lui apportiez un siège, une bougie. Qu'est-ce qu'il en aura à faire? Dieu ne veut pas que vous mettiez à genoux devant une image pieuse. Non, il veut votre cœur, c'est-à-dire vous-même. Apportez-lui votre cœur, tel qu'il est, avec ce qu'il contient. Peut-être ce cœur brisé qui a besoin d'être guéri de toutes ces émotions douloureuses qui sont les vôtres. Apportez-lui votre cœur avec votre péché, demandez-lui qu'il vous pardonne, qu'il vous purifie intérieurement. Apportez-lui votre cœur avec tout ce qui vous a dominé, asservi. Ah, plusieurs fois vous êtes pris en défaut, vous avez dit « Ah, je n'aurais pas voulu faire ainsi, mais ça a été plus fort que moi ». Eh bien mes amis, Dieu est plus fort que ce qui est plus fort que vous. Vous me suivez? Dieu est plus fort que ce qui est plus fort que vous. Mais pour que sa grâce opère, il faut que vous lui apportiez votre cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. On en restera là pour cet après-midi. Recueillons-nous quelques instants. Notre Dieu, notre Père,